la 17e année, le Polydôme de Clermont-Ferrand a accueilli du 18 au 20 novembre 2016 les rendez-vous du carnet du voyage. Pendant ces 3 jours, des conférences, des projections, des ateliers, des expositions et une centaine de carnetistes et d'auteurs invités. Mais oubliez un instant le brouhaha ambiant, les salles surchauffées, le fourmillement des 15 000 visiteurs. Fermez les yeux. Concentrez-vous. Vous entendez ce battement qui vous appelle ? Comme un cœur qui palpite ? Tendez l'oreille, les battements se transforment en voix. Vous distinguez maintenant de nombreuses langues différentes et toutes se mélangent, mais l'une d'elles vous est très familière. Elle vous invite à découvrir l'histoire d'une région couverte à 98% de forêts à l'autre bout du monde et celle des peuples qui la composent. Partez à leur rencontre, laissez-vous guider dans les rues quadrillées du centre de Cayenne, puis embarquez dans une pirogue à un dégrade pour remonter le fleuve Mahuri. Pénétrez lentement dans une contrée sauvage et préservée aux courbes voluptueuses. Laissez-vous bercer par le bruit du vent qui caresse les feuilles des arbres, le chant des oiseaux, les coassements et le doux clapotis des vaguelettes créées par votre barque. Vous êtes en Guyane. Là-bas, vous pourrez peut-être rencontrer, en plein cœur de la forêt tropicale, un homme patient en train de dessiner tout ce qui vit sous cette canopée, un grand carnet à la main. Étienne Druon, après des études d'arts appliqués, d'architecture et de design, décide de se consacrer pleinement à ses deux passions, les voyages et le dessin. Et comme beaucoup d'autres avant lui, il succombe rapidement à l'appel de la forêt tropicale, pour laquelle il avait déjà une très grande curiosité.
C'est une fascination de gamin. Depuis tout le temps, depuis toujours, j'ai toujours été fasciné par l'Amazonie. Et puis en fait, dès l'âge de 2 ans, je voulais aller en Amazonie. Et quand j'ai pu me payer mon premier billet d'avion, c'est ce que j'ai fait à 20 ans, je suis tout de suite parti là-bas. Et c'est la forêt primaire, elle est vraiment fascinante, c'est une terre de liberté, c'est complètement exubérant, c'est un révélateur de personnalité. Si vous êtes peureux en France métropolitaine, là-bas vous allez être mort de peur, ça exacerbe tout. Et ça apprend vraiment. C'est un bon test. C'est un bon test pour se connaître.
Étienne Druon, dans ses carnets sur le Nicaragua, la Guyane et la forêt amazonienne, préfère raconter son environnement plutôt que lui. Ses dessins très détaillés, accompagnés de courtes légendes, évoquent ceux des carnets des explorateurs naturalistes et anthropologues des siècles passés. Mais le dessinateur ne se concentre pas sur ce qui le fait rêver. Il est tout à fait conscient des problèmes environnementaux et humains liés à la surexploitation des ressources forestières ou minérales. La prolifération des surfaces agricoles consacrées aux cultures de soja OGM, destinées notamment à la production d'agrocarburants, ont altéré durablement la densité du couvert forestier au Brésil. Et en Guyane, même si la forêt semble préservée, les Amérindiens sont victimes d'une autre pollution liée à l'exploitation de ressources naturelles.
La forêt amazonienne au Brésil est très très morcelée, effectivement. C'est incontrôlable. C'est incontrôlable, l'État brésilien, les enjeux, les lobbies. On pense d'ailleurs que Peter Black, Macapa, a été assassiné plutôt par des tueurs à gages embauchés par les industries du bois, puisqu'il voulait faire un reportage sur la déforestation. Donc au Brésil, c'est très très mal barré. Et quand on dit que ça s'améliore, en fait, ils sont passés... Avant, c'était l'équivalent de 2 stades de foot qui étaient rasés tous les jours. Maintenant, ils sont plus qu'à 1 stade de foot par jour. Mais quand on voit ce qui reste, c'est finalement la proportion n'a pas changé. En Guyane, finalement, la Guyane est peut-être l'endroit où la forêt amazonienne est vraiment la plus préservée. On peut surveiller la forêt guyanaise sans trouer dans le couvert végétal, parce que l'exploitation forestière est impossible, enfin très difficile, parce que ce sont des terres hautes, c'est des plateaux, c'est un peu plus montagneux et vallonné, et l'industrie forestière n'est pas rentable encore. Donc la Guyane a vraiment cet avantage-là par rapport au Brésil. Bon, après, on a d'autres inconvénients. On a les barrages hydrauliques, le cas de Belamonte au Brésil, qui est un scandale incroyable. En Guyane, on a fait pareil avec Petit Sceau. Mais en Guyane, on est confronté à leur paillage. C'est une terre d'or, l'Amazonie. Et ça, c'est une plaie. C'est vraiment une plaie et c'est incontrôlable en fait. C'est des systèmes mafieux, leur paillage illégal, et ça, je pense que à moins d'une chute spectaculaire du cours de l'or, on n'aura pas de solution là-dessus.
Comment leur paillage sauvage porte atteinte à la vie des peuples amérindiens ? C'est ce qu'explique Étienne Druon. Le dessinateur a souligné ce problème dans son carnet consacré à la Guyane et dénonce l'orpillage.
En Guyane, la terre est naturellement riche en mercure, des taux très importants de mercure. Et en fait, tant que le mercure n'est pas sollicité, il reste dans la terre, il n'y a aucun souci. Mais les orpailleurs, par leur action, libèrent le mercure en creusant, en lavant les terres, ils libèrent le mercure. Et ce mercure va venir polluer les cours d'eau. Donc les Amérindiens qui se nourrissent du fleuve, principalement de poissons, ont des taux de mercure absolument hallucinants dans les cheveux. Alors on n'a pas encore fait, pour le moment, le lien n'est pas encore vraiment fait entre certaines malformations ou problèmes de santé qu'ils peuvent avoir liés à ça. C'est encore un peu flou. On sait que le mercure est naturellement présent en taux très élevé en Guyane. Donc il y a encore un flou de ce côté-là, on manque de recul, mais par contre aussi toute l'action de braconnage, de chasse qui est faite pour alimenter les chantiers d'orpaillage, ça vide, la population n'a plus à manger, les orpailleurs vont beaucoup amener l'alcool, et puis ils vont beaucoup... c'est vraiment une catastrophe. Ils vont voler les Amérindiens sur les abatis, leur lieu de culture. Et les Wayanas sont vraiment en difficulté face à ça. Ça fait des années qu'ils réclament des actions plus dures, mieux montées de la part de l'État français. Et pour le moment, c'est irrégulable en fait.
La Guyane, terre française, semble un peu oubliée par la métropole. Pourtant, l'État français intervient dans la lutte contre l'orpaillage illégal avec le concours de l'armée et de la gendarmerie. Ces chercheurs d'or clandestins sont appelés garimpeiros et viennent pour la plupart du Brésil. Très organisés, ils disposent d'un matériel de pointe pour l'extraction, comme des barges immenses, et même des armes pour chasser leurs concurrents ou les forces de l'ordre. Par ailleurs, des commerces chinois se créent aux alentours des exploitations pour les ravitailler en carburant et en nourriture. Aujourd'hui, les garimpeiros seraient un peu moins de 6 000. Selon la préfecture de Guyane. Ils se sont multipliés après le bond du prix de l'or sur le marché international dans les années 2000. En effet, l'once d'or est passée de $400 en 2006 à $1 600 en 2012. Pour Étienne Druon, la politique que met en place l'État français a été longtemps inadaptée.
Il intervient avec des lois de France continentale dans un pays d'Amérique du Sud, sur le continent d'Amérique du Sud. Donc c'est complètement inapproprié, disproportionné. Et y a des effets. Les opérations harpies, les démantèlements des camps d'orpaillage commencent à porter leurs fruits, commencent à asphyxier les orpailleurs. Mais les gendarmes ont toujours un temps de retard par rapport aux orpailleurs. Les gendarmes font ça pour... C'est pas leur vie qui est en enjeu pour les gendarmes, c'est leur métier. Les orpailleurs, c'est plus que leur métier, c'est leur seul moyen d'existence. Donc déjà la confrontation, elle n'est pas possible. Entre quelqu'un qui sait ce qu'il va faire la semaine prochaine et quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va manger le soir même, c'est complètement inégal. Faudra mettre des gros moyens, faudra une coopération plus intense avec le Brésil, parce que le Brésil pour le moment traîne un peu les pieds sur le dossier. Donc on peut pas dire que rien n'est fait, mais l'efficacité n'est pas sur du court terme pour le moment. Et puis il y a des lois. Je pensais, quand ils ont commencé les opérations, à l'époque, ça devait être Anaconda, quand ils démantelaient, donc c'était des opérations héliportées, puisque c'était le seul moyen d'accéder aux chantiers illégaux. Et ils arrivaient sur place, les gendarmes arrivaient sur place, donc les orpailleurs étaient prévenus depuis bien longtemps, et en général, ils sont déjà très très loin. Et les gendarmes, à l'époque, n'avaient pas le droit de détruire le matériel... des orpailleurs, donc les groupes électrogènes qui servent aux lances à eau, les choses comme ça. Dans la loi française, la destruction était interdite. C'était la confiscation. Mais quand on vient par hélicoptère, on peut pas ramener par hélicoptère un énorme groupe électrogène. Donc il laissait le matériel sur place, ça faisait bien rire les orpailleurs illégaux. Et il a fallu une loi, il a fallu quelques années pour qu'ils aient le droit de détruire le matériel sur place. Donc voilà, en fait, c'est cette adaptation qui fait traîner les choses et qui fait tout reculer, en fait. On aura toujours un temps de retard sur les orpailleurs, ça c'est sûr.